Cette actualité, vous la connaissez, cette décision du conseil départemental du Haut-Rhin de conditionner encore une fois le versement du RSA à 7 heures de bénévolat par semaine. Nathalie Arthaud, votre réaction, ce qu'on vient d'entendre?
Évidemment, je trouve que cette proposition c'est une provocation. Je trouve ça révoltant. C'est vraiment la double peine, hein, parce que bon, ce sont des femmes, des hommes qui ne trouvent pas de travail, hein, qui sont suspendus à leur téléphone pour décrocher quelques heures de travail ici et là, qui ont parfois été mis à la porte après toute une vie de travail, qui n'en peuvent plus justement de ce chômage de longue durée. Et là, on ose les présenter comme des profiteurs, comme des fainéants, voilà. Et c'est vraiment... C'est une petite musique qu'on entend de plus en plus, hein. Alors là, ça vient d'un département qui est géré par la droite. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec quand même les mesures prises par le gouvernement qui se prétend de gauche socialiste, hein. Je pense par exemple au contrôle des chômeurs. C'est exactement la même logique. Hein, c'est de faire croire que bah, finalement les chômeurs ils cherchent pas du travail, ils se sentent bien dans leur situation, cette petite musique, hein, que finalement ce sont des assistés, ces femmes et ces hommes. Et puis évidemment c'est aussi à rapprocher avec cette volonté du gouvernement de diminuer les indemnités chômage là, alors avec la dégressivité ou... donc voilà, et ça c'est une
d'ailleurs
politique...
on en parlera, il y a une renégociation hein, qui est prévue,
voilà, qui est enclenché. Alors moi je trouve que c'est le monde à l'envers, parce que les profiteurs, les grands assistés, c'est pas à regarder de ce côté-là, voilà, c'est à regarder du côté de ce grand patronat. Alors ils ont tout ce qu'ils veulent, hein, ces grands patrons qui licencient, qui sont les premiers responsables de ce chômage de masse dont toute la société est en train de crever, hein. S'il y avait des contrôles à faire, ça serait justement d'aller contrôler ce qu'ont fait tous ces grands groupes des dizaines, des centaines de millions qu'ils ont touchés au nom, vous savez, du crédit d'impôt du CICE. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait? La plupart de ces grands groupes, que ce soit la Poste, que ce soit l'industrie automobile, mais même Carrefour, ils ont supprimé des emplois. Voilà, alors là, il y aurait des contrôles à faire. Hein, on sait très bien, hein, cette grande bourgeoisie, là, son sport favori, c'est l'évasion fiscale. C'est des centaines de milliards. Voilà ce qu'il faut regarder. Et voilà comment fonctionne notre société. Notre société, c'est un système capitaliste, hein, où finalement, bah, l'argent va à l'argent. Voilà. Et toujours, on monte du doigt qui, eh bien, des travailleurs qui sont tombés au chômage ou pas d'ailleurs, hein, mais des travailleurs, on nous explique que si la société va mal, c'est parce que voilà, finalement ils se complaisent dans le chômage, ou parce que quand même ils veulent travailler que 35 heures, ou parce qu'ils en demandent trop. Ben écoutez, moi j'espère que vous voyez toutes ces provocations là qui s'accumulent. Moi tout mon souhait, et ce pourquoi je milite, hein, c'est que elles finissent par déclencher une explosion sociale, voilà, et qu'on remette ce monde à l'endroit. Et que toutes les richesses qui existent dans cette société, eh bien, on les organise pour qu'il y ait un emploi pour tous, un salaire pour tous, et donc des conditions de vie dignes pour tous. Parce qu'encore une fois, c'est vrai que le RSA, comme il a été dit, c'est indigne. C'est indigne. Voilà. 500 euros par mois, c'est indigne.
500 euros pour une personne seule, sans enfant. Près de 900 euros pour une personne seule avec deux enfants. 1000 euros pour un couple avec deux enfants. Des chiffres terribles, Nathalie.
Bah oui, c'est indigne. Et en fait, en réalité, ces femmes et ces hommes, ils se battent, justement, mais ils se battent tous les jours. Et à un moment donné, ça use, bien sûr, parce que bah, se battre pour remplir le frigo, pour donner à manger aux gosses, pour pas être expulsé de son logement, pour réussir à avoir une place en crèche, ou même régler des problèmes de santé. Donc il faut qu'ils se battent pour tout. Alors évidemment, tout ça, ça fatigue, tout ça, ça use, tout ça, ça démoralise. Bon, mais ça, c'est une réalité. Mais comment dire? Je suis un peu gênée, moi, y compris par le titre de l'émission, quand on parle de solidarité. Parce qu'en fait, ce sont des droits. Par exemple, quand même, le droit au travail, il est inscrit dans la Constitution. Et le problème, justement, c'est qu'il y a aujourd'hui des responsables dans cette société qui produisent, qui créent ce chômage de masse, cette misère de masse. Parce qu'en réalité, le chômage, on pourrait le régler. Ça aussi, c'est une idée qui est installée. Hein, c'est qu'on ne peut rien y faire. C'est la fatalité. C'est comme ça. En plus, ça fait longtemps que ça dure, n'est-ce pas? Bon, voilà. C'est comme ça dans plein de pays, etc. Mais non, c'est pas vrai. Du boulot, il y en a. Il y a de quoi. Il faudrait embaucher dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Il faudrait embaucher dans beaucoup d'entreprises où les gens, mais ils sont exténués par des cadences de travail, par des horaires de travail qui sont aussi insoutenables.
Si vous permettez, Nathalie Arthaud, on peut sûrement vous reprocher beaucoup de choses, comme à tout le monde, mais il y a une chose en tout cas qu'il faut vous reconnaître, c'est votre cohérence. Vous disiez, le jour où le RSA a été mis en place en juin, donc juin 2009, vous disiez justement ce que vous dites maintenant, jour d'entrée en vigueur du RSA, le fait que l'État paie ainsi pour que les employeurs puissent user et abuser des temps partiels. C'est ce que vous dénonciez déjà,
oui,
à l'époque.
Des temps partiels, du chômage, vous voyez, mais même y compris, vous savez, cette prime pour l'emploi, moi ça m'a interpellée. Parce que le SMIC, il est tellement bas, c'est-à-dire qu'en fait les patrons, ils veulent bien des salariés, ils veulent bien des travailleurs, mais ils ne veulent pas les payer à un salaire normal qui leur permette de, bah, ne serait-ce que de vivre et de revenir au boulot le lendemain, en ayant dormi, en ayant un peu mangé, en ayant même peut-être fait des enfants, parce qu'il faut aussi que ça se renouvelle tout ça, hein, cette main-d'œuvre. Eh bien, comme les patrons ne veulent pas payer, ils demandent à l'État de payer. Voilà, alors, et je parle quand je parle des patrons, je parle surtout de ce grand patronat qui est responsable, parce que vous voyez, des boîtes comme à Peugeot, comme Renault, comme ces industries de l'automobile, mais même à Air France, même dans toutes ces entreprises qui ont fait parler d'elles, Sanofi, il y aurait de l'emploi à créer. Bien sûr, ça nécessiterait de prendre un peu sur les profits, mais justement, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire, et il faut revendiquer nos droits. Nos droits, il ne s'agit pas de dire, voilà, c'est de la solidarité, il faut être gentil avec... Non, il y a des droits, et je crois qu'y compris, c'est difficile hein, pour les allocataires du RSA ou pour des gens qui sont plongés dans le chômage, qui sont condamnés au chômage depuis des années, de dire bah oui, j'ai des droits et je les revendique la tête haute, parce que justement tous les jours ils sont mis plus bas que terre, on les monte du doigt, etc. Et c'est ça qui est scandaleux. Mais moi j'ai envie de dire non, avec les travailleurs, et vous faites partie des travailleurs à qui on a enlevé leur emploi, mais vous êtes du monde du travail, du monde ouvrier. Et il faut que ce monde ouvrier, bah, il revendique ses droits. Et ses droits, c'est ça. Et il va falloir réussir à inverser la vapeur et à faire en sorte, effectivement, que les profits y servent à créer des emplois, à répartir le travail entre tous. Parce que ça, on pourrait le faire. C'est pas compliqué. Ça nécessite, effectivement, d'imposer un rapport de force et de leur imposer bah, que, justement, il y en ait moins pour ces grands actionnaires, qu'il y en ait moins pour cette fraction la plus riche de la société.
Alors, Nathalie Arthaud, la réalité, il y a encore cette manifestation tous les ans. En décembre encore, il y a eu la manifestation contre le chômage. Vous y avez participé?
Oui, on y est présent traditionnellement. Mais là, je voudrais revenir, moi, sur c'est illégal. Bon, oui, c'est illégal. Oui, pour l'instant.
Attention.
Pour l'instant, bon, mais là, voilà, c'est attention. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce que j'ai entendu la ministre du Travail dire qu'elle n'y était pas favorable, etc., etc. Mais jusqu'à quand? Parce que des revirements, justement, du gouvernement dans ce sens-là, on en a vu un petit paquet quand même. Hein. Et je voudrais rappeler qu'il y a 2 ans, Hollande expliquait que justement, il ne toucherait jamais aux indemnités chômage, sûrement pas au moment où le nombre de chômeurs est si important. Eh bien, on en est... aujourd'hui, hein, à cette proposition de diminuer parce qu'il n'y a pas d'argent. Voilà. Et puis c'est comme ça pour tout. Vous savez, ce Hollande s'était fait élire en se rendant auprès des ouvriers menacés de licenciement, en se rendant auprès de ceux de PSA, de Goodyear, etc. Aujourd'hui, auprès de ceux d'ArcelorMittal aussi, aujourd'hui, ces mêmes salariés sont tous à Pôle emploi. Et même certains sont menacés de se retrouver en prison demain parce que dans leur lutte, bah voilà, ils sont battus avec tous les moyens qu'ils avaient. Voilà, on en est là. On est dans c'est un gouvernement aussi hein, qui s'était présenté dans sa campagne comme l'ennemi de la finance. Il se retrouve maintenant flanqué d'un ministre qui vient de la banque Rothschild et qui ne comprend pas que tous les jeunes ne veuillent pas devenir des millionnaires. Donc on est aussi dans avec un gouvernement qui s'est servi du vote des classes populaires pour aujourd'hui mener une politique qui fait la part belle bah, à la grande bourgeoisie, à ce grand patronat, au MEDEF, tout ce qu'ils demandent, ils l'ont. Et tout ça, c'est effectivement... on n'a pas d'amis de ce côté-là du gouvernement. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, même l'opposition hein, du gouvernement qui s'exprime sur cette question-là soit une protection. Moi, j'y crois absolument pas. Moi, je crois qu'on se protégera à nouveau hein, de tous ces coups qui nous tombent sur la figure si on retrouve le chemin des luttes, de la combativité, si on relève la tête. Et les travailleurs, les chômeurs, ils n'ont pas de quoi rougir. Hein, dans la société. Non, ils portent toute la société. Ceux qui sont au chômage, mais ils ont fait la société, ils l'ont portée sur leurs épaules, ils y ont laissé leur santé au boulot, souvent, pour fabriquer les voitures, nos logements, les routes, etc. Donc, il n'y a pas à se sentir... rabaisser comme ça. Non, les travailleurs, ils font tourner toute la société, hein, et ils la portent, et donc il faut qu'ils se battent. Ils sont légitimes à ne pas accepter d'être justement comme ça, jetés au chômage, et puis on vous donne une aumône là de 500 euros. Non, hein, on doit se battre justement pour une vie digne.
Alors, la dignité, c'est aussi ce que je vous disais justement, c'est d'aller manifester. C'est cette manifestation de décembre contre le chômage, vous y avez pas participé l'année d'avant aussi. Et puis, tous les ans, le chômage augmente. Ça, c'est une façon de résister aussi.
Et surtout les luttes, à chaque fois qu'il y a des suppressions d'emplois, à chaque fois qu'il y a des... Même, je parle des suppressions d'emplois, parce que vous savez, aujourd'hui, les patrons, ils parlent plus de licenciement, hein. On a l'impression que ça n'existe plus, il n'y a plus de licenciement, ils parlent de suppression d'emplois. Ils se débrouillent toujours pour trouver quelqu'un pour pousser vers la sortie. Mais la réalité, ce sont des licenciements déguisés, tout ça. Donc, je peux vous dire qu'il n'y a pas de réaction collective à l'échelle de la société là-dessus, mais que dans beaucoup d'entreprises, il y a des réactions. Il y a... les travailleurs essayent de se défendre. Ils essayent de ne pas... De s'opposer à tous ces plans qu'on appelle, en plus, vous rendez compte, on appelle ça plan social. Hein, ça s'appelle des plans sociaux, des plans de sauvegarde de l'emploi. Mais vraiment, tout est inversé, si vous voulez, dans notre société aujourd'hui. Tout est inversé. Mais je vous garantis que dans plein d'entreprises, les travailleurs, ils se battent. Ils se battent même pour faire embaucher des intérimaires. Ils se battent pour faire embaucher des apprentis, les contrats de professionnalisation qui sont là. Donc, il y a des combats comme ça. Et nous, lutte ouvrière, nous sommes dans les entreprises pour justement faire en sorte que partout où les salariés veulent se mobiliser, qu'il puisse y avoir justement ce rapport de force pour forcer le patronat à lâcher sur ces embauches, parce qu'on s'en sortira que comme ça. Il faut bien comprendre que ce chômage de masse, il est fabriqué. Il y a des fabricants de chômage aujourd'hui dans ce pays. C'est ces grands groupes, justement. C'est pas le petit patron du coin qui, lui, bosse avec son ouvrier, plombier, et qui... Non, c'est pas lui. C'est ces grands groupes-là. Hein, qui ferment des sites, qui du coup mettent la clé sous la porte, enfin font mettre la clé sous la porte à des dizaines de sous-traitants. C'est ces grands groupes qui n'en ont jamais assez. Et il leur faut du cash, il leur faut des marges, des profits pour que leur valeur en bourse augmente. C'est ça, aujourd'hui, la logique de cette société capitaliste. Et les travailleurs, ils ont des intérêts qui sont contraires à tout cela. Donc il faut absolument, oui, qu'ils se battent. Eux, personne d'autre le fera à leur place.
Nathalie Arthaud, donc porte-parole de lutte ouvrière, ancienne candidate à la présidentielle de 2012. Et puis, vous êtes aussi professeure d'économie et de gestion dans un lycée à Aubervilliers. Malika, donc Zediri, nous parlait justement de ce cas triste, terrible, de cet homme qui s'était immolé à Nantes. Le désarroi de cet homme, finalement, ça signe le fait que il s'est retrouvé seul, il se sentait seul, pas de collectif pour empêcher ce geste terrible. Vous êtes enseignante avec, j'ai envie de dire, la relève, les jeunes, des jeunes qui ont sûrement des parents au RSA.
Oui, bien sûr, Aubervilliers, c'est une ville quand même pauvre, justement, mais donc ces jeunes, ils la vivent, hein, cette vie de galère, de misère, de précarité, avec des problèmes de logement, avec des problèmes de... Voilà, puis avec rien dans les poches, avec ils voient bien que le chômage, c'est usant moralement, ils le voient bien. Et je peux vous dire qu'ils sont en vie. Ils ont vraiment envie de bosser, quoi. Enfin, ils ont envie de trouver un travail. Ils ont, eux, ils ont.
Et puis ces jeunes, ils connaissent, ils ont sûrement des amis, des copains, des copines qui ont eux décroché avec le système scolaire et qui n'ont pas encore 25 ans.
Oui, qui sont aussi dans la galère. Et puis, et en même temps, donc ils en rêvent d'avoir un travail. Et en même temps, ils voient bien que ça va être extrêmement dur. parce qu'en plus la discrimination, elle est réelle. Enfin, ils se la prennent dans la figure. Mais vous savez, même pour trouver ceux qui veulent aller en alternance, pour trouver des entreprises, c'est dur. Donc tout ça, ils sont à la fois, ils sont aussi très très. Ils voient cette société. C'est une jungle. Il faut se battre contre, y compris contre les autres, hein, parce que voilà, on vous apprend ça aussi. Maintenant, on est en concurrence les uns avec les autres. Donc je crois que oui, pour eux c'est très très dur. Alors
comment on leur fait croire au collectif, à ces jeunes, parce qu'ils savent qui vous êtes?
Ah, moi, ils savent qui voilà. Je suis. Bon, je peux pas le cacher. J'aurais pas envie de le cacher. Et justement,
ils savent ce que vous portez comme idée.
Moi, la perspective, vraiment, c'est de changer radicalement cette société. Parce que, y compris tout à l'heure, Malika parlait de l'intérêt général. On a perdu l'intérêt général dans notre société. Mais moi, je crois que dans une société capitaliste, l'intérêt général, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On a ceux qui ont le pouvoir. Et le pouvoir, il vient d'où? Il vient de leur argent, de leur capital. Et vous savez, quand on se retrouve dans une situation où, de toute façon, il faut aller se vendre, hein, parce que, bah, justement, nous, on n'a rien. On n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. On n'a pas hérité d'une fortune, ni d'un groupe, ni d'une entreprise, ni d'un paquet d'actions. Donc, pour avoir le droit de vivre, il faut aller se vendre. Se vendre manuellement, se vendre intellectuellement, enfin, vendre ses capacités intellectuelles, etc. C'est ça, la société. Et il y en a un qui va vous acheter ou pas. Et celui qui va vous acheter, bah oui, il a le pouvoir sur vous. Pour moi, c'est ça, le pouvoir fondamental. Et moi,
ce qui est encore plus cynique, s'il y en a un qui va vous louer.
Et alors, il va vous vendre, vous revendre à d'autres, vous louer à d'autres, parce que maintenant, c'est ça, hein, c'est comme, on sous-traite aussi les salariés. Bon, on est dans une société comme ça, avec des classes sociales. Et il y a une classe qui a le pouvoir, le véritable pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de décider de votre vie quand même, hein, le pouvoir de vous dire, bah toi demain, bah justement, tu peux repartir, j'ai plus besoin de toi, bah tu vis comme tu veux, moi c'est plus mon problème, je m'en lave les mains, etc. Et ce pouvoir-là, c'est bien sûr, c'est pas l'intérêt général, hein, qu'il poursuit, c'est son intérêt particulier, c'est amasser toujours plus de profits, de bénéfices, de capital, et il y en a jamais assez, parce que bon, moi quand j'avais l'âge de mes élèves, on parlait de millionnaires. Hein, aujourd'hui, c'est complètement dépassé. Hein. Il faut passer en termes de, faut parler de milliardaires aujourd'hui. Et c'est comme ça. C'est une fuite en avant. Et y compris ce chiffre. Je sais pas si vous l'avez en tête, mais des 62 personnes qui possèdent l'équivalent de 3,5 milliards de femmes et d'hommes sur cette terre. C'est que vraiment, on est dans une société où tout consiste à, il y a une espèce d'immense pompe aspirante des richesses produites par toute la société à un pôle. C'est comme ça que marche notre société. Et il n'y a pas d'intérêt général. Non, il y a des intérêts opposés qui sont contradictoires. Et moi, mes élèves, j'ai envie de leur dire, parce que la première chose, c'est de comprendre la société. Comprendre leur environnement. Avoir des repères. Justement, ne pas subir. Il faut d'abord comprendre pour ne pas subir. Pour moi, c'est d'abord ça en tant que prof. Hein. Et puis, j'ai envie de leur dire, mais oui, il faut être actif. C'est à vous de prendre votre sort en main. Mais pour moi, c'est évidemment collectivement qu'on s'en sortira. C'est en se battant. Et moi, voilà, la dignité, c'est ça aussi. C'est de se battre, justement. C'est de ne pas se laisser faire. Et j'espère que je fais aussi passer cette idée-là auprès de mes élèves. Voilà.
Vous parliez d'un chiffre symbolique. Il y a une phrase symbolique que tout le monde connaît, qui a été repassée en boucle un peu partout, celle de Warren Buffett, qui dit, non, mais attendez, la lutte des classes, oui, ça existe toujours, et c'est ma classe dominante qui gagne la bataille en ce moment.
Oui.
Est-ce qu'ils sont sensibles à ces... parce que les mots sont importants. Tout à l'heure, vous disiez, on ne parle plus de licenciement, on parle de suppression de postes. On travestit
la
réalité.
Ils sont très sensibles et je voulais parler
justement. Lutte des classes, ça leur parle ?
Alors,
parce que quelque part, derrière cette décision du conseil départemental du Haut-Rhin, fondamentalement, derrière, c'est toujours la même chose.
L'injustice, ils la ressentent presque instinctivement. Bien sûr, bien sûr. Et leur mère, elle est femme de ménage dans un grand hôtel parisien. Mais ils la vivent, ils la connaissent, l'exploitation. Ils savent ce que ça veut dire, l'exploitation.
Mais est-ce qu'ils connaissent leurs droits ?
Et beaucoup moins. Beaucoup moins. Ils connaissent beaucoup moins leurs droits, mais vous savez, y compris par rapport aux allocataires du RSA ou de la CMU, vous savez quand même qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui ne demandent même pas leurs droits.
Exactement.
Parce qu'ils ne les connaissent pas. Donc, c'est ça aussi la situation. Moi, je suis souvent frappée, mais bien sûr, ils vivent tout ça avec beaucoup de. Et cette jeunesse qui a cette caractéristique de regarder justement la société avec un œil neuf, hein, je peux vous dire qu'elle est révoltée par plein de choses. Et moi, je me souviens encore d'une élève, on discutait de ce scandale des migrants. Et de l'inhumanité aujourd'hui, hein, qui leur est faite. Et une élève qui m'a dit, mais madame, vous vous rendez compte, dans l'actualité, ils ont parlé des migrants comme si c'était des fardeaux. C'est des hommes et des femmes. Je dis, bah oui, c'est vrai. Et donc, ces jeunes, ils perçoivent tout ça. Ils le perçoivent, ils le sentent instinctivement. Voilà. Et le problème, c'est aussi qu'il y ait des perspectives dans la société qui leur soient proposées. C'est aussi que politiquement, il y ait des issues, il y ait une force sociale qui se... Pas seulement un parti politique, mais une force sociale vivante qui, justement, porte ce combat, qui se fasse voir, qui se montre. Moi, je suis toujours frappée de voir le combat des taxis, des VTC, des agriculteurs. Ils se montrent. Ils vont à la bagarre et légitimement, ils disent « mais nous, on n'arrive plus à vivre de notre boulot ». Il faut que les travailleurs aussi se montrent de cette sorte-là, parce que pendant tout un temps, le monde ouvrier, qu'il était influencé par le Parti communiste, par exemple, par les syndicats, il était aussi un point d'attraction pour toute cette jeunesse consciente qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas et qu'il fallait changer le monde. Et ça, il a reculé. Et c'est aussi cette jeunesse qui est complètement déboussolée, complètement, et qui, y compris, se voue aujourd'hui, à des horreurs incroyables. Et nous, lutte ouvrière, c'est aussi notre, on sait qu'il faut reconstruire ça. Ce mouvement ouvrier vivant dans les entreprises, dans les quartiers aussi, dans les cités populaires, dans les HLM.
Alors, lutte ouvrière, organisation communiste, j'invite celles et ceux qui nous écoutent à aller sur votre site internet, et vous dites notamment, pour nous, le communisme n'a évidemment rien à voir avec les caricatures sanglantes qu'ont été les régimes de Staline, Mao, de la Corée du Nord. Vous dites, il n'existe pas de nature humaine au sens de mode de pensée qui serait le même, figé pour tous les humains. Pour changer les choses, aujourd'hui, il faut comprendre les comportements dominants. Il y a une chose essentielle que je vais vous dire, c'était le rapport à la domination. Vous dites, il est courant d'entendre qu'une... Enfin, vous dites, il est écrit sur le site, il est courant d'entendre qu'une société égalitaire serait impossible en raison de la nature humaine, de l'égoïsme de l'homme attaché à l'accumulation de richesses individuelles, et que les inégalités auraient toujours existé. Et un saut dans le temps, vous dites, pendant 90 000 ans, nos ancêtres ont vécu avec l'entraide, une nécessité face à une nature hostile. Et donc là, on pourrait dire remplacer nature hostile par système hostile.
Mais oui, bien sûr. Et en fait, bien sûr, aujourd'hui, l'individualisme, c'est la société qui pousse à l'individualisme, au chacun pour soi, à raisonner comme ça. Il faut se battre pour tout, mais pour avoir, je sais pas, une place en crèche, pour mettre ses gosses à la cantine, parce que les cantines, elles sont bondées maintenant. Pour tout, il faut se battre. C'est la société qui pousse à ça. Alors que quand on réfléchit bien, tout ce qu'on fait, c'est collectivement, tout, il n'y a rien qui peut marcher, on ne peut rien faire tout seul, on le fait collectivement. Et bien nous disons, il faut qu'on décide, qu'on ait le pouvoir de décider de ce qu'on produit, de comment on produit. C'est d'ailleurs toutes ces décisions qui aujourd'hui sont confisquées par une minorité, parce que, voilà, ils possèdent le capital, c'est chez eux, toutes ces grandes entreprises. Mais il faut qu'on reprenne collectivement le contrôle de ça. Pour nous, c'est ça le communisme, c'est mettre en commun ces grands moyens de production que sont ces grandes entreprises, ces grandes chaînes de distribution, d'énergie, etc. Et qu'on les fasse fonctionner pour l'intérêt, effectivement, de toute la population, y compris pour qu'on ne bousille pas la terre sur laquelle nous sommes.
Nathalie Arthaud, comment est-ce qu'on fait de la cohésion aujourd'hui?
Moi, je crois que...
Comment est-ce qu'on crée du collectif? Comment on fait croire que le collectif est possible dans une société où, vous le disiez, qui est organisée de telle sorte que, en toile de fond, il y a un système qui individualise?
Oui,
et qui pousse à ça.
Le système, il pousse vraiment, vraiment à ça. Il y a cette division entre, oui, les travailleurs en activité, les chômeurs, le RSA, mais même au sein des chômeurs. Hein. Au sein des chômeurs, vous allez dans une entreprise, il y a une dizaine de gars qui bossent côte à côte. Ils sont presque tous avec un vêtement de travail différent, parce qu'il y en a un qui vient pour le sous-traitant, l'autre il est intérim, l'autre, et puis ils ont des horaires de travail différents, ils ont des salaires différents, ils relèvent d'un statut différent. Enfin, il y a une fragmentation de la classe ouvrière, parce que justement, j'ai envie de parler de la classe ouvrière. Hein, il y a une fragmentation qui est voulue, qui est organisée sciemment par, effectivement, le patronat. Les lois, elles sont faites aussi pour ça, hein, parce que les lois, elles sont pas du côté... Et tout le problème, c'est effectivement de revenir à cette idée de base. En réalité, on fait tous partie de la même classe sociale, on est tous exploités, on est tous finalement soumis à ce pouvoir-là, on en passe tous par sa loi, et il faut qu'on retrouve ensemble la capacité à se battre. Moi, je vois pas d'autres moyens. Alors, ça commence bien sûr par discuter, ça commence par essayer d'organiser les gens ensemble. Mais c'est aussi un problème de conscience. C'est aussi un problème de conscience. On a beaucoup reculé au niveau de la conscience parce que justement, le chômage, la misère, les difficultés de la vie quotidienne, elles pèsent aussi. C'est la solitude, c'est l'isolement, et donc la conscience qu'on est dans la même galère tous. Et qu'on ne peut y répondre qu'ensemble, bah oui, elle recule aussi. Hein, ça va de pair finalement. Et puis alors maintenant, en plus, se rajoute la montée aussi des idées racistes avec les attentats. Quand même une ambiance de suspicion généralisée. Hein. Et le gouvernement, il fait rien pour calmer le jeu. Hein. Je dirais que c'est même le contraire. Hein. Il alimente aussi tout ça à sa façon. Des partis qui disent républicains. Hein, bah eux aussi participent à segmenter la société et à faire construire en chien de faïence. Et toi, t'es quoi? C'est quoi ton identité? Bon, moi, j'ai envie de dire que notre identité, c'est qu'on est des exploités. Voilà, qu'on a tous des problèmes de fin de mois, de boulot, hein, de comment payer les études à leurs enfants, comment payer son loyer. C'est ça, notre identité. C'est d'être faire partie de cette classe ouvrière. Bien sûr, il y a des différences. Bien sûr, on est d'origines différentes. On est, on a des vies différentes, bien sûr. Mais on a ce point-là en commun. Et quand même, c'est pas rien. C'est ce qui pèse dans notre vie de tous les jours, quand même. Un boulot, le boulot, ce qu'on fait, les trois quarts de notre vie, notre travail, l'argent, qui, le salaire qu'on a. Et ça, le problème, c'est qu'il y a un tas de choses dans la société qui font que ça passe au deuxième plan. Bah, nous, notre combat, c'est de dire bah non, hein, objectivement, elle existe, hein, cette classe ouvrière. Il suffit de prendre le métro à 5h du matin, on la voit, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a que des travailleurs, hein, que des prolétaires dans le métro et dans les transports en commun à 5h du matin. Hein. Et voilà, on les voit, on est tous rassemblés là, par centaines de milliers. Bon, donc, elle existe objectivement, mais il y a eu un recul, effectivement, de la conscience, parce qu'il y a une politique bien consciente de la part, oui, de ceux qui dominent, de la classe politique aussi, qui jouent sur les différences et qui en font leur fonds de commerce politicien. Et puis, il y a le fait, comme il n'y a pas eu de lutte aussi importante depuis longtemps, hein, puisque la dernière grande lutte, il faut remonter en véritablement à 1995, en fait, contre Juppé, parce que 2010 a été bien moins important. Et bien, comme il n'y a pas cette lutte-là, c'est vrai que cette conscience, elle est moins prégnante, elle est moins présente. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous, c'est aussi par la parole que. Et notre parti, hein, nous, Lutte Ouvrière, c'est aussi, on milite pour ça, pour que cette conscience-là, elle se conforte. C'est une réalité. Et qu'on s'appuie sur tout ce qu'on vit. C'est une réalité. On est confronté au même problème.
Donc, il y a un problème de prise de conscience, parce que vous le dites, cette classe ouvrière, elle existe. Et pourquoi cette classe ouvrière, selon vous, hein, Nathalie Arthaud, hein, pour Lutte Ouvrière, pourquoi cette classe ouvrière ne prend pas conscience que celles et ceux qui sont bénéficiaires du RSA et qui se font taper dessus, c'est les plus fragiles de cette classe ouvrière avec qui il faut être solidaire et avec qui il faut se mobiliser et monter au créneau? Pourquoi ça ne se fait pas?
Parce que justement, quand il n'y a pas.
Les membres de la famille qui font peur.
Non, mais quand il n'y a pas même l'énergie pour redemander des comptes aux véritables responsables, à ceux qui tirent les ficelles, à ceux qui sont. Quand il n'y a pas cette énergie-là, quand il n'y a pas cette combativité, quand il n'y a pas cette détermination, eh ben oui, on se regarde comme ça. Hein. Et puis c'est tellement plus facile de dire, bah, c'est le voisin, peut-être que si je prenais à plus pauvre. Oui, mais y compris par rapport aux Roms, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est aussi ces réflexes-là. C'est le fruit, tout ça, c'est le fruit de la démobilisation. Et d'une certaine démoralisation, d'une certaine résignation. Moi, je pense, y compris le vote Front National, c'est l'expression de ça. C'est de on est ceux qui ne se sentent pas la force de demander des comptes à ceux qui sont responsables. Eh bien, ils cherchent des boucs émissaires. C'est typique de la résignation quelque part et du désespoir. Donc, et tout ça s'explique par tout un tas de choses, et à commencer par évidemment cette crise, ce chômage de masse, etc. Donc, on voit qu'il faut reprendre une autre voie. Et cette voie, encore une fois, c'est les luttes collectives, c'est de se défendre surtout.
C'est ce que vous disiez en début d'émission, c'est le rapport de force.
Le rapport de force, mais surtout, et vous savez, il n'y a pas de petites luttes. hein, ne serait-ce que d'avoir hein, des conditions de sécurité au travail, le fait d'avoir un local, enfin, il n'y a pas de petite lutte, mais que on se bat, on relève la tête surtout, et que on reconstruise cela qui quand même qui était quelque chose de vivant, hein, il y a quand même quelques années de cela.
Belaïd Bedreddine, donc le président du groupe Front de Gauche au conseil départemental de Seine-Saint-Denis, dit qu'il y a des questions à se poser, qui doit financer la solidarité nationale, et puis il faut aussi s'inquiéter de l'avenir. Bon, c'est bien d'avoir de l'espoir, mais quand il a sa lecture, avenir, c'est des millions et des millions encore de chômeurs.
Bah oui, il a raison, mais... là où moi je suis pas d'accord avec le Front de Gauche et la politique justement qu'il mène, bah oui, c'est que la dénonciation elle est juste, hein, la dénonciation elle est juste, mais la solution, hein, c'est que finalement il faut faire une politique qui concilie tout ça. Il y aura pas de politique qui conciliera tout ça. Voilà. Moi je, hein, on va concilier le chou, la chèvre. Ben non, non, on va pas concilier ça. Non, c'est irréconciliable. Donc, moi, le problème, c'est que c'est... Bon, le Front de Gauche, il dit, aujourd'hui, c'est nous, la vraie gauche, avec le Parti communiste, hein, parce que c'est vrai que, bon, ben là, maintenant, on voit quand même que le gouvernement Hollande, il a mené une politique, mais qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de Sarkozy. Donc ça, c'est une évidence. Enfin, bon, on va pas... Je crois qu'il n'y a même plus besoin d'en faire la démonstration. Mais ils disent, bon, nous sommes la vraie gauche. Mais... Si on continue de dire aux travailleurs que leur vie, elle sera meilleure sans qu'il soit nécessaire de renverser ce pouvoir-là du grand capital, de tous ces grands groupes sur l'économie, sans que ça soit nécessaire de leur enlever finalement la maîtrise, hein, du cœur de l'économie, on n'arrivera à rien. Voilà, ça sera une tromperie de plus. Une tromperie de plus. Et le problème, c'est que je suis d'accord avec Malika quand elle dit ça compte, ça pèse, effectivement, hein, cet aspect politique. Mais bien sûr que c'est aussi à la base du désarroi qu'on connaît aujourd'hui dans les classes populaires. Hein, tous ces passages du Parti Socialiste, de la gauche, j'ai envie de dire, parce que souvent aussi, il est passé au gouvernement avec le Parti Communiste, hein, avant, soit sous Jospin ou sous Mitterrand. Et de voir que tous ces passages-là, finalement, ils ont renié leurs engagements. Ils ont fait le contraire de ce pourquoi les militants militer tous les jours auprès de leurs camarades de travail. Ils ont même privatisé, enfin bon, et puis là, c'est le tournant de la rigueur sous Mitterrand, sous Jospin c'était les privatisations, puis là sous Hollande, bah, c'est le pompon, là c'est carrément là on est sur vraiment des attaques en permanence contre le monde du travail. Toutes les lois sont refaites pour le bonheur du patronat, voilà. Et bien sûr que ça pèse. Parce que c'est un sentiment d'être abandonné, c'est la trahison, c'est... voilà, tout c'est... Bien sûr, mais moi, je suis pas pour qu'on refasse, hein, à nouveau, pour que les mêmes expériences. Et je suis convaincue que tant que, voilà, ceux qui se présenteront en promettant, hein, des choses aux travailleurs, en disant, bah, on va tirer la couverture à vous, vous allez voir, nous, on va faire cette politique-là, mais sans dire qu'il y a une guerre à mener et qu'il y a besoin de toute la force sociale, de la capacité de révolte des travailleurs pour faire pression sur cette grande bourgeoisie, parce que c'est bien ça aussi, vous savez, on nous dit, oui, mais le patronat, c'est aussi les petits, c'est aussi, voilà, le petit artisan. Bon, c'est vrai, mais celui qui fait l'économie, qui fait la crise, qui donne le là, mais c'est ces grands groupes. La réalité, c'est que c'est ça. Et d'ailleurs, quand le gouvernement, vous savez, quand il y a eu la crise de 2008, tous les gouvernements, ils ont sauvé qui ? Les gros, hein ? Les petits pouvaient crever parce que l'économie, elle est faite par les gros. Donc, effectivement, il faut s'attaquer à ce pouvoir-là. Et voilà, nous disons ça. Il faut pas croire. Il faut pas croire parce que ressusciter la gauche, un projet de gauche, une espérance à gauche. Bon, il y a toujours eu de tromperie sur la marchandise. Toujours. toujours. Parce que Mitterrand, il nous promettait de faire une politique bien, bien, bien à gauche, hein, même la rupture avec le capitalisme. Je pense c'est pareil. Et regardez ce qui s'est passé en Grèce, il faut aussi tirer les leçons de ça. Tsipras, en Grèce, avec sa nouvelle organisation, Syriza, a dit, mais oui, je vais faire une autre politique. D'ailleurs, je vais aller discuter en Europe, enfin, avec Merkel, avec Hollande, et puis on va avoir de la marge de manœuvre, et enfin, on va pouvoir faire autre chose. Et la réalité, c'est que non. Le grand capital, il demande d'être payé. Et puis il se moque de qui sera élu, hein, des engagements qu'il a pris auprès de ses électeurs, de la démocratie même, il s'en moque. Hein, et il tient les cordons de la bourse. Donc en coupant les vivres, il a obligé Tsipras à se renier sur toute la ligne. Et ça, c'est une réalité. Donc ne racontons pas d'histoire. Et c'est pour ça que je dis oui, bien sûr, c'est un combat politique, mais ce combat politique sera porté par les travailleurs, par l'ensemble de la classe ouvrière, au chômage, au travail. Pour moi, c'est un ensemble, c'est les mêmes. Hein, et par en bas, on peut effectivement peser sur la société. Hein, à plein de reprises, ça je ne vais pas monopoliser la parole, mais à plein de reprises, dans les mouvements sociaux, hein, c'est comme ça que ça s'est passé, en 36, en 68.
Là, on a eu un cas typique de personnes directement concernées dans leur vie, hein, avec les minima sociaux, donc la DUCAF, l'association de défense des usagers de la CAF. Ils se sont regroupés et ils luttent. C'est un exemple de lutte.
Ah bah oui, parce qu'il faut se battre justement pour tout, même pour avoir pour toucher ces maigres allocations maintenant. C'est vrai que c'est de pire en pire. Bon, moi j'ai été frappée aussi dans l'actualité récente. On a entendu que les salariés qui réclamaient leurs droits devant les prud'hommes, hein, ils étaient confrontés à des mois, des années d'attente, hein, pour justement obtenir ne serait-ce que leurs droits. Parce qu'on peut aussi discuter même de leurs droits. À mon avis, ça va pas loin, hein. Mais même rien que leurs droits, voilà, il faut qu'ils se battent. Et ça, c'est vrai pour. Bon, moi, même la CAF, elle a des problèmes pour payer les pensions de retraite. Enfin bon, il y a des retards. Mais et puis vraiment, les gens, il faut qu'ils se débrouillent pour vivre. Alors, ils sont dans des situations inextricables, hein, inextricables, où ils ont sur le dos le bailleur social, où ils ont les factures, on leur coupe l'électricité, etc. Et puis, on leur dit, débrouillez-vous. Hein, où ça sera réglé peut-être dans 4 mois, dans 5 mois, dans 6 mois. Donc tout ça, c'est... Et c'est vrai que... C'est difficile. Et ces lois-là, la justice, elle est pas organisée pour défendre les intérêts des petits gens, ça c'est sûr. Et les lois, elles sont pas faites pour ça non plus. Hein, ça, on le constate tous les jours. Tous les jours. C'est un exemple de plus.
Le mot de la fin, Nathalie Arthaud, lutte ouvrière.
Le mot de la fin, je vais encore me répéter.
Révolution.
Mais en tout cas, voilà, effectivement, il y a de l'argent, et c'est scandaleux de les entendre nous expliquer que comme l'UNEDIC est en déficit, eh bien, on va couper dans les allocations chômage. Franchement, c'est scandaleux. On voit qu'ils coupent pas, hein, dans les cadeaux qu'ils font au patronat, et c'est des dizaines de milliards. Hein, donc, vraiment, vraiment, non. On a un gouvernement qui a choisi son camp. Hein, c'est le camp du grand patronat, des licencieurs en plus, de ceux qui fabriquent le chômage. Et les travailleurs, maintenant, ils savent. Hein, ils n'ont pas d'amis de ce côté-là. Donc, effectivement, l'avenir, il va dépendre de nos capacités à nous organiser et à nous défendre le plus collectivement possible.